Laurent Schwartz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes PDG du comptoir de l'or. On va parler avec vous de ce marché et des perspectives sur ce marché. Si on peut commencer peut-être par votre vision à vous de cette année 2016, est-ce qu'on ne s'attendait pas à peut-être l'or encore plus haut que ce qu'on a eu finalement?
Alors, on a eu quand même une année 2016 qui a été très dynamique, qui a démarré en début d'année sur un niveau relativement moyen des cours de l'or, qui par la suite, avec le Brexit, a propulsé le cours de l'or à près de 38 à 39 000 euros le kilo. Donc le Brexit, c'était plus 8% sur le cours de l'or. Derrière, on a eu l'élection de Donald Trump, dont on n'attendait pas forcément l'élection, qui a eu un effet contraire à ce qu'on pensait, c'est-à-dire que dans les premières heures de l'annonce de l'élection, il y a eu une augmentation du cours de l'or de 7-8%, puis derrière une baisse de ce cours de l'or. Et aujourd'hui, le cours de l'or par rapport à avant l'élection de Trump a baissé de 5 à 6%.
Quand on regarde au cours des dernières années, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a eu beaucoup de faux départs, on pourrait presque parler comme ça, de faux départs pour l'or à différents moments de crise financière, et puis finalement l'or revient un petit peu. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché de l'or de votre point de vue?
Alors, l'or est vraiment un produit qui est la valeur refuge en temps de crise, qui est la réserve de valeur, c'est vraiment l'assurance vie de dernier recours, c'est la réserve de valeur que l'on souhaite garder chez soi pour, en cas de difficulté, en cas de faillite bancaire, permettra toujours d'avoir quelque chose. C'est vrai que on a eu pas mal de, alors je n'appellerais pas ça des faux départs, c'était des moments d'alerte comme le Brexit, comme l'élection de Trump, et on voit à chaque fois qu'il y a une augmentation du cours de l'or qui finit par se contracter légèrement et par se consolider. Après toute hausse, il y a toujours des consolidations. Il ne faut pas oublier qu'on est parti en 2005 à 8 à 10 000 euros le kilo. Aujourd'hui, on est à 36 000 euros le kilo. Certes, on a connu des plus hauts. Après le Brexit, on est monté à 39 000. Je crois que l'or reste un des actifs qui a le mieux performé ces 10 dernières années.
Est-ce qu'on a aujourd'hui une vision assez claire d'où est l'or entre les différentes banques centrales? Parce que souvent on dit oui, mais ce marché il est difficile à percevoir parce qu'il y a peut-être des manipulations. Et puis les banques centrales, est-ce qu'elles nous disent tout sur leur stock d'or? Est-ce qu'on est vraiment une visibilité complète?
Alors, il y a des chiffres officiels. Les banques centrales détiennent un cinquième de la détention mondiale d'or. Elles détiennent à peu près 30 à 35 000 tonnes d'or. Les premiers sont les États-Unis avec 8 000 tonnes d'or. Donc, on connaît les chiffres officiels. Après, effectivement, il y a des rumeurs qui nous indiquent, qui nous disent, voilà, peut-être qu'il y aurait plus que ça. Nous, on préfère rester sur ce qu'on sait, sur des éléments tangibles. On n'est pas très pro-théorie du complot. L'or, il est clair que l'or a un rôle particulier. Ça n'est pas une matière première qui est comparable à d'autres matières premières. C'est une matière première qui a un double rôle, voire un triple rôle. D'abord, un rôle monétaire, puisqu'effectivement, les banques centrales ont de l'or, achètent de l'or. Les pays émergents ont considérablement acheté de l'or ces dernières années. La Chine continue d'acheter et de se renforcer sur ce marché. Les pays émergents de manière générale, alors que les pays plutôt occidentaux ont tendance à stagner au niveau de la détention d'or. Donc il a un rôle monétaire. Alan Greenspan a toujours été un fervent défenseur de l'or. Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale dans les années 2000, a toujours été un fervent défenseur du métal jaune par rapport à de la monnaie dont il a été le premier à faire marcher et faire tourner la planche à billets. Il a un rôle, l'or a également un rôle de matière première plus traditionnelle, industrielle, puisque c'est la matière première du secteur de la bijouterie. La moitié de la consommation d'or dans le monde se fait par le biais de cette consommation du secteur bijoutier. Et dans ce secteur bijoutier, on notera également qu'il y a 2 tiers de cette consommation qui est monopolisée par l'Inde et la Chine. Donc on voit que l'Inde et la Chine comptent beaucoup sur ce marché, que ce soit sur la bijouterie d'ailleurs ou sur les autres parties de cette consommation d'or.
Alors vous avez des magasins physiques en France, par exemple. Donc vous avez peut-être une bonne vision de ce qui se passe sur ce marché-là. Alors avec la crise, avec quelle est un peu l'attitude des consommateurs justement? Est-ce qu'ils viennent changer plus d'or? Est-ce qu'ils viennent en acheter plus? Quelle est un peu la tendance?
Alors, c'est vrai qu'on a 60 magasins en France. C'est un service que l'on apporte aux particuliers pour avoir un maximum de proximité. On voit donc au plus près les réactions de nos clients. On a vraiment une typologie très différente de clients. Faut pas oublier qu'on fait plusieurs choses au comptoir national de l'or. Nous achetons des vieux métaux précieux d'une part, donc on va proposer un service d'expertise souvent des vieux bijoux en or, des pièces de monnaie, plein de métaux précieux, or, argent, platine, palladium, rhodium, tous ces métaux qui sont destinés à être recyclés, à être fondus. On va les racheter, on va expertiser les bijoux de nos clients pour leur faire une offre de rachat. Ça, c'est la première partie. Après, on va également intervenir sur le marché de leur investissement et de l'investissement en argent également. Et là, on va proposer à nos clients d'acheter et de vendre des pièces et des lingots à ceux qui veulent acheter et à ceux qui veulent vendre. Nos clients ont donc cette triple typologie. Par rapport aux aspects macroéconomiques, c'est plutôt ceux qui se portent sur l'investissement qui ont leur mot à dire, si je peux m'exprimer ainsi. Ceux qui viennent céder et ceux qui viennent acheter le font assez peu par opportunisme. C'est souvent une situation personnelle qui amène à vouloir acheter parce qu'on a des liquidités, parce qu'on suit le cours de l'or et parce qu'à un moment donné, il y a un événement, souvent une augmentation ou une baisse du cours, qui vient déclencher ce comportement. De l'autre côté, ceux qui viennent vendre, c'est aussi une situation personnelle qui amène à céder son or. C'est souvent un héritage. On a hérité de pièces et de lingots. L'or se détient à long terme, donc on n'achète pas pour revendre immédiatement. Et ceux qui viennent avec plusieurs lingots ou des pièces d'or viennent parce qu'ils ont également noté que le cours avait monté ou avait baissé. Donc tout le monde voit un petit peu, selon sa propre situation, quelle est la meilleure chose à faire.
Le mot de la fin, justement, sur le patrimoine, est-ce que l'envisagez-vous comme une diversification, comme on pourrait acheter un certain nombre d'actifs, peut-être à risque, des actifs un peu moins risqués dans un patrimoine? En fait, l'or, ça doit être une... Quelle part pour vous du patrimoine pour quelqu'un qui fait sa diversification?
Alors, tout asset manager qui se respecte indiquera qu'il faut à peu près 5% d'or dans un portefeuille. C'est un actif décorrélé des autres classes d'actifs. Il permet donc d'avoir un espèce d'effet tampon par rapport aux autres variations. Quand les autres produits vont baisser, celui-là va augmenter. Et donc, nous, on préconise effectivement 5 à 8% d'un portefeuille. On préconisera toujours d'abord acheter sa résidence principale. C'est d'abord une priorité avant de commencer à investir. C'est un investissement de long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète une année pour le revendre l'année suivante. C'est quelque chose vraiment qu'on investit à long terme.
Merci, Laurent Schwartz.
Merci.